Il est 8h.
Quand on se voit dans le regard des autres, et que ce regard est aimant ou au moins bienveillant, on se voit comme une personne suffisamment belle, intéressante, aimable, mais sur l'écran froid, technique, la caméra, elle met au contraire en valeur ce qu'on va trouver être des défauts pour nous.
À passer ces journées en visioconférence, on ne voit plus que les imperfections de nos visages. Résultat, la chirurgie esthétique est en plein boom, l'enquête d'Europe 1 le confirme au moment même où la médecine classique est sous très haute tension. Xavier Bertrand, candidat pour 2022, analyse dans ce journal sur la rivalité entre le président des Hauts-de-France et celui de la République. Et puis, 12 bouteilles de Pétrus de retour sur Terre après un an dans l'espace. Scientifiques et œnologues viennent de les ouvrir. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors on va parler d'histoire ce matin, mais pas de l'histoire du virus, ni des variants. Non, mon invité, c'est l'historien Pascal Blanchard qui vient de proposer une liste de noms de la diversité pour rebaptiser des rues et des bâtiments publics. Rendez-vous à 8h15.
C'est juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Après la pandémie, après le télétravail maximal, quand vous reverrez vos collègues de bureau, auront-ils un nouveau visage au sens propre? C'est bien possible. La chirurgie esthétique est en plein boom. Les restrictions que l'on subit depuis un an n'y sont pas pour rien. Alors, cette tendance nous a interloqués, nous l'avons vérifié et c'est vrai, le monde d'après sera en partie refait.
Bonjour Théo Manval.
Bonjour.
Alors, vous avez enquêté auprès de nombreuses cliniques et vous nous le confirmez, avec les confinement à répétition, la profession parle de 20 à 30% de demandes en plus.
Oui, ça monte même à plus 40% dans certaines cliniques à cause, vous le disiez, du télétravail, du règne de la visioconférence qui a totalement bouleversé notre rapport à notre propre image. On se voit en permanence soi-même en bas de l'écran et ça crée de vraies failles, explique le psychanalyste Saverio Tomasella.
Quand on se voit dans le regard des autres, et que ce regard est aimant ou au moins bienveillant, on se voit comme une personne suffisamment belle, intéressante, aimable, mais sur l'écran froid, technique, la caméra, elle met au contraire en valeur ce qu'on va trouver être des défauts pour nous. On va se focaliser sur eux.
Et dans les cliniques affluent donc ces patients qui veulent régler ce qu'ils considèrent comme un problème, là, maintenant, tout de suite.
Alors vous parlez des cliniques, Théo, allons-y immédiatement avec ce reportage européen de Johanna Chabas.
Bistouri à la main, le docteur Philippe Pellissier se prépare à des heures au bloc opératoire. Lifting, opération des lèvres, des paupières, du cou, la plupart des nouvelles demandes concernent le visage. Avec pour les patientes régulièrement le même déclencheur, les visioconférences au travail.
Le verbalise spontanément, dire mes paupières me plaisent pas parce que j'ai l'impression qu'elles sont lourdes, ça me gêne. Là avec les vidéos, je me suis rendu compte que ça s'est quand même bien aggravé ces derniers mois, je m'en étais pas rendu compte.
Dans le couloir, Caroline, soucieuse de son apparence, attend pour un lifting. Elle a profité du confinement pour sauter le pas. Avec cet isolement imposé, c'est selon elle le meilleur moment.
Si je veux être discrète vis-à-vis de mon entourage, si jamais il y a un hématome, je m'enferme chez moi et au bout de 3 semaines, de toute façon, je redeviendrai normale.
Marie, elle, est déjà allongée sur la table d'opération pour une liposuction du ventre et remodeler ses fesses. Après l'intervention, elle devra rester plusieurs semaines debout ou sur le ventre. Pour elle, la convalescence est donc plus confortable avec le télétravail.
Dans un open space, je peux pas rester debout alors que tout le monde est assis. C'est un peu bizarre. Alors que je peux me permettre le télétravail debout sans problème.
Elle se considère très chanceuse face à l'afflux de patients. Son chirurgien a une longue liste d'attente.
Alors Théo Manval, on entend qu'il n'y a pas que le visage dans ce reportage de Johanna Chabas. Cette dame se fait refaire les fesses. Ça a quand même un lien avec le télétravail ?
Eh bien en partie, puisque comme on vient de l'entendre, la convalescence peut se faire à l'abri des regards. Ça aide certains à franchir le pas. Plus de dépenses de vacances ou de voyages. Certaines y consacrent désormais leurs économies. Comptez par exemple autour de 400 euros pour une injection de Botox au front. Et puis surtout à la maison, Mathieu, on passe encore plus de temps devant nos écrans. On est donc encore plus confronté, voient les psychiatres, à toutes ces images influenceuses, coachs sportifs, publicité qui diffuse l'injonction à la minceur ou à avoir un corps musclé, notamment via les réseaux sociaux. Et là aussi, notre estime de soi en prend un coup.
Vous parlez des psychiatres. On entend, hein, y a ce vrai mal-être. Mais quand même, Théo, on peut aussi être très surpris de voir la chirurgie esthétique augmenter à ce point-là, quand dans le même temps, les autorités demandent de déprogrammer les soins non urgents.
Eh oui, mais ces cliniques spécialisées ne sont pas soumises à cette demande, nous confirme l'ARS, parce qu'elles n'ont pas de service de réanimation. Au micro, certains chirurgiens esthétiques assurent qu'ils réduisent quand même un peu la cadence, car leurs infirmières partent faire des remplacements en réanimation ailleurs. Mais en off, d'autres confient surtout un vrai sentiment de gêne, un malaise, face à ce qu'ils considèrent être des opérations de confort. Pendant le premier confinement, ces cliniques de chirurgie esthétique étaient d'ailleurs fermées pour que toutes leurs infirmières puissent prêter main forte à l'hôpital. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Alors Théo, vous avez le masque, mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose dans les sourcils ou
je
dans le front.
Je vous promets que je n'ai rien changé.
Enquête signée Théo Manval
parce que vous accusez Théo comme ça, vous avez fait quoi Théo?
Tout va bien, moi
je vous remercie. Pilosité faciale, de cheveux, mais rien de plus jusqu'ici, jusqu'à présent. En tout cas, 20 ou 30, jusqu'à 40% de hausse des demandes de chirurgie esthétique. Ces chiffres que vous révèle Europe 1 ce matin et cette enquête, les témoignages sont à retrouver sur Europe1.fr.
Les annonces sanitaires du jeudi, la Nièvre, le Rhône et l'Aube, prochain département concerné par les mesures de freinage. Par ailleurs, voilà ce que signifie concrètement le slogan « Dehors en citoyen ». Tout rassemblement de plus de 6 personnes en extérieur est désormais interdit et cela concerne tout le territoire.
Revirement frappant en Allemagne, Angela Merkel a non seulement changé d'avis sur les restrictions du week-end de Pâques, mais elle a aussi reconnu une erreur.
Parallèlement, je sais que tout ceci va accentuer la confusion générale. Je le regrette profondément et je demande pardon à tous les citoyens et citoyennes.
Verzeihung, le pardon en allemand. On va rejoindre Hélène Kohl à Berlin pour Urbain. Hélène, ce geste politique fera date, hein, la presse allemande le souligne ce matin.
En une, le journal berlinois Taz publie un photomontage, une Merkel masquée qui porte sa croix et ce titre, le Merkel culpa. Pour Die Welt, la journée d'hier va entrer dans les livres d'histoire, pour le geste fort évidemment, mais aussi parce que sur le fond, on a eu la preuve que le management de crise de la chancelière n'était pas à la hauteur. Die Zeit y voit le signe que la politique agit sans boussole actuellement. Le Spiegel prend la défense de la chancelière, elle a échoué, mais elle a l'honnêteté de le reconnaître. Même analyse dans le Süddeutsche Zeitung, avouer sa faiblesse la renforce, surtout qu'on le sait bien, si ça ne tenait qu'à elle, voilà longtemps que Merkel aurait pris des mesures bien plus radicales. En somme, résume le quotidien de Munich, elle s'excuse pour les hésitations des autres.
Hélène Kohl en ligne de Berlin pour Europe 1. Cap sur 2022 pour Xavier Bertrand, officiellement candidat à la présidentielle. Annonce faite dans une interview au journal Le Point et en direct sur Europe 1, ce sera dimanche à 10h.
Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour à tous.
Le patron des Hauts-de-France réserve ses flèches au chef de l'État.
Et oui, Bertrand tire à boulet rouge contre le président. La pratique macroniste, c'est une centralisation et une verticalité. Elle l'étouffe et conduit l'État à son impuissance, dit-il. Emmanuel Macron ne comprend pas ce qui arrive au pays. Il a contourné les corps intermédiaires, effacé le Parlement, poursuit-il. Et il dit, en faisant allusion d'ailleurs au surnom Jupiter, un président, ce n'est pas un être normal, mais il ne doit pas non plus se prendre pour Dieu. Voilà, tout est dit. Bertrand, lui, veut gouverner par référendum pour redonner une dimension gaulienne à un mandat qui, dit-il, sera unique afin de ne pas se préoccuper de sa réélection.
Un mandat unique. Alors en face, Michael, est-ce que Emmanuel Macron considère déjà Xavier Bertrand comme son rival pour 2022?
Ah oui, très nettement, hein, comme me l'a confié un poids lourd du gouvernement. Le président est obnubilé par Bertrand parce qu'il sent sa détermination et parce qu'il voit bien, dit ce ministre, qu'il va faire du Le Pen présentable. En tous les cas, Xavier Bertrand, effectivement, prend un risque car c'est maintenant qu'il doit monter dans les sondages pour convaincre sa famille politique qu'il peut battre le RN et ce, dès les prochaines régionales. Xavier Bertrand le dit lui-même, si je ne suis pas capable de franchir cette étape, alors il me restera à briguer la présidence de ma copropriété.
Mickaël Darmon, chef du service politique d'Europe 1. On vous retrouve donc dimanche à 10h sur Europe 1 en direct pour le grand rendez-vous de Xavier Bertrand avec les Échos et CNews.
Vous restez avec nous, c'est historique. L'abolition de la peine de mort dans l'État américain qui avait exécuté le plus grand nombre de condamnés dans l'histoire du pays. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
1400 exécutions en 4 siècles dans l'État américain de Virginie. L'abolition de la peine de mort, adoptée il y a quelques heures, a une dimension d'autant plus symbolique que c'est le premier État parmi ceux du Sud, autrement dit les anciens ségrégationnistes, à en finir avec la peine capitale.
Et le gouverneur de Virginie, le démocrate Ralph Northam, s'en explique.
On peut être fier de l'histoire de la Virginie, mais pas celle de la peine capitale, dit-il. On ne peut pas infliger cette punition ultime sans être sûr à 100% que l'on a raison. Explication du gouverneur à propos, vous l'avez compris, des erreurs judiciaires passées.
On reparle de la Station Spatiale Internationale. Une bien drôle de cave pour conserver 2 caisses de grands vins français.
Oui, plus d'un an à 400 km d'altitude. Quel impact sur la boisson? Un vrai programme scientifique a été mené par 2 entrepreneurs bordelais.
Et on retrouve notre correspondant à Bordeaux, Stéphane Place. Alors Stéphane, vous n'êtes pas dans l'espace, mais à Bordeaux même. Hein, et la bonne nouvelle, c'est que le vin à 5 000 euros le flacon n'a pas été altéré.
Oui, 12 bouteilles de Petrus 2000 de retour sur Terre après 14 mois passés dans l'espace. À la dégustation, le professeur Philippe Darrier de l'Institut des sciences de la vigne et du vin a noté quelques évolutions.
Une petite différence en termes de couleur. Des reflets tuilés qui étaient un petit peu plus soutenus sur le vin de l'espace. Donc qui parfois nous fait penser à un vieillissement un petit peu plus important. Peut-être des notes de cacao, des notes grillées qui étaient plus marquées dans le vin de l'espace. Et après gustativement, il y a eu une petite différence aussi sur la composante perçue de l'astringence, le caractère des tanins.
Du vin et 320 sarments de vignes également expédiées dans l'espace avec un objectif, trouver des solutions pour l'agriculture de demain sur une terre soumise au réchauffement climatique. Nicolas Gomme a fondé Space Cargo Unlimited à l'origine de ce programme de recherche.
En mettant la vie dans cet environnement sans gravité, on stresse de manière considérable tout ce qui est vivant et la nature élabore des stratégies de défense, des réponses et c'est ça qu'on veut capturer. Les attributs que gagnent ces plantes dans l'espace restent. Quand on étudie aujourd'hui de manière chimique les plantes, elles ne se construisent pas de la même façon. On les voit pousser plus vite. Elles ont 12 feuilles, là où les témoins terrestres, qui sont la même plante, elles en ont une ou deux. Mais aussi, quand on regarde au niveau chimique, au niveau cellulaire, il y a des dynamiques qui ne sont pas les mêmes.
Dès l'an prochain est prévue une nouvelle mission spatiale pour étudier la fermentation du vin.
Merci beaucoup Stéphane Place. En football, la campagne de qualification...
On sait pas si on a mal au crâne après ce vin rouge de l'espace. On va rappeler Stéphane demain.
Sûrement pas. En football, la campagne donc de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar commence très timidement pour les Bleus. Match nul un partout hier soir au Stade de France face à l'Ukraine. Le prochain match, c'est dimanche, 15h, heure de Paris, mais au Kazakhstan, à 5000 km d'ici.
Merci beaucoup François Geffrier, 5000 km d'ici et moins 10 degrés je crois. Je crois qu'il fait très froid au Kazakhstan. On aura l'occasion d'en reparler.
On va mettre les manches longues.
François, il est 8h13, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre, l'invité de Sonia Mabrouk ce matin, l'historien spécialiste de l'immigration Pascal Blanchard. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Pascal Blanchard, historien spécialiste de l'immigration et de la colonisation.
Bienvenue à vous et bonjour Pascal Blanchard.
Bonjour.
Alors on va bien sûr évoquer dans cet entretien la liste des 318 noms de la diversité à la disposition des élus pour rebaptiser les noms de rues et de bâtiments publics, des noms proposés par le comité que vous présidez. Mais tout d'abord, Pascal Blanchard est dans le prolongement du débat sur l'islamo-gauchisme à l'université et dans la société. Vous avez récemment dit « Je ne sais pas qui sont les islamo-gauchistes ». Vous ne voyez toujours pas de qui il s'agit.
Non, parce que c'est un concept un peu flou qui veut tout simplement regrouper des gens qui, je pense, pensent des choses des tas différents et je ne suis même pas sûr que ça existe réellement. Il y a des soucis, il y a des problèmes. Il y a des radicalités, il y a des deux côtés des gens qui sont empêchés de penser, de discuter, d'échanger, de rechercher. Et d'un seul coup, on a inventé ce concept pour dresser des listes des bons et des mauvais chercheurs. C'est toujours dangereux quand d'un seul coup, comme ça, des slogans, un peu un coup de tampon sur le dos de certains, viendraient les stigmatiser. Ça me fait toujours peur. C'est un peu comme ceux qui veulent enlever les plaques ou ceux qui veulent brûler des livres. Ça m'inquiète toujours.
Et vous ne voyez aucune convergence entre une partie, je dis bien une partie de la gauche et des partisans de l'islam politique.
Il y a 20 ou 30 ans, à un moment, des tentations qui ont pu exister. On l'a vu en Angleterre, dans certains partis d'extrême-gauche en France. Mais c'est tellement infime qu'aujourd'hui, ça ne représente pas ni un courant, ni un mouvement de pensée, ni même quelque chose qui est concret en termes de force politique, si vous préférez.
Je peux vous donner un exemple, peut-être. Parce que lorsque la mairie, par exemple, Europe Écologie Les Verts de Strasbourg, dans le cadre de financement d'une mosquée, vote pour subventionner une association qui ne veut pas signer, Pascal Blanchard, la charte des principes de l'islam de France, qui est proche d'Erdogan. Ouais. Comment vous appelez cela ?
Elle a tort. C'est une erreur.
Non mais comment vous appelez cela ?
C'est pas d'islamo-gauchiste, c'est une erreur parce qu'elle joue un petit jeu électoraliste en pensant qu'il faut, comme vous le savez comme moi, se protéger les voix de tout potentiel électoral et au nom de ça, elle dépasse et les principes républicains, voire même le bon calcul politique et c'est tout simplement stupide. On peut considérer que ces élus ont de très mauvais conseillers, mais c'est pas forcément une idéologie qui est en tramaison derrière.
Non, sans
c'est
idéologie. Est-ce que ce n'est pas une alliance entre des milieux islamistes et des milieux parfois de gauche, d'extrême gauche
ou de droite, vous savez, dans certaines mairies, vous l'avez vu comme
il
moi.
Il peut y avoir l'islamo-droitisme.
Ça dépend. Ouais, alors là, oui, on commence à réinventer. Non, je pense que c'est de l'opportunisme politique territorial qui est bien loin de ce qu'a pu être à un moment une volonté de certains mouvements trotskistes britannique d'imaginer qu'avec l'islam, le nouveau prolétariat de l'Occident, on pourrait lever les armes contre le capitalisme, qui a été une chimère. C'est, je pousse de la petite tambouille territoriale dans ce cas-là. Dans d'autres cas, ça peut être des points idéologiques beaucoup plus compliqués.
Mais vous n'êtes pas en train de relativiser.
Non, pas du tout. Je pense au contraire que c'est quand on cible bien l'ennemi qu'on est efficace.
Et vous n'arrivez pas ce matin à trouver, à nous donner une définition de l'islamo-gauchisme.
Non, parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'on cherche.
Je peux vous en proposer une.
Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de ceux qui pensent, par exemple, que la race, ou ceux qui vont penser, par exemple, que la droite ou la gauche, d'une manière unique, sont les seuls à avoir raison, ou d'une certaine manière, ceux qui ne veulent pas respecter les principes de la République. Là, on sait le désigner, on n'a pas besoin d'inventer des mots pour désigner ceux qui sont les ennemis
de
la République.
Une définition, l'islamo-gauchisme de point, une alliance militante entre des milieux islamistes et des milieux d'extrême gauche, le tout érigé en nouvelle grande cause révolutionnaire où l'immigration serait le nouveau prolétariat.
Ben là, vous avez 0,0001% des gens que vous allez vouloir désigner. Et en fait, en vous trompant d'ennemis, vous n'êtes pas efficace.
Mais
vous
qui
ne savez pas
d'ennemis?
Comment les combattre. Parce que les véritables ennemis, c'est ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République. C'est ceux qui ne respectent pas le vivre ensemble.
Donc ceux qui ne respectent pas
la laïcité.
Mais qui sont-ils? Pourquoi vous n'arrivez pas à les nommer?
Ah mais parce qu'ils n'ont pas de nom, parce qu'ils viennent de tas de mouvements différents. Vous pouvez prendre des deux côtés de l'extrême, de l'élastique. Vous savez, j'expliquais l'autre jour qu'on a un peu affaire en ce moment à un élastique où les deux extrêmes sont en train de tirer. En fin de compte, ce qu'il faut prendre du bout des doigts, c'est ceux qui tirent l'élastique de chaque côté, qui sont tous les deux aussi dangereux en termes identitaires.
Pour vous, c'est la fameuse tenaille identitaire.
Non, voilà, très bon. C'est le mot que j'allais vous prononcer, vous l'avez dit avant moi, là, c'est le mot identitaire. Et on a des identitaires des deux côtés. Alors, ces identitaires peuvent se matiner d'un islamisme d'un côté, comme ils peuvent se matiner d'un néofascisme de l'autre. Et là, on arrive bien à voir qui ils sont. Ce sont des gens qui se replient sur leur identité et qui se replient sur leur couleur de peau.
Alors,
ou qui se replient sur leur religion.
Sur la couleur de peau, parce que là, on a parlé de l'intrigue islamiste, mais il y a aussi la diffusion des thèses indigénistes qui suscite, vous l'avez remarqué, la polémique en ce moment avec la présidente de l'UNEF qui a reconnu.
Ce qui n'est pas nouveau, c'est que les thèses suscitent des polémiques depuis quelques temps, il y en a beaucoup.
Mais la reconnaissance de l'existence par elle-même, de réunions en non-mixité raciale interdites aux Blancs, ça vous a choqué?
Ça fait quelques temps, vous vous souvenez des camps aussi qui avaient été organisés dans l'Est de la France, vous vous souvenez, depuis 4-5 ans, on voit arriver ce type de phénomène, bien sûr que ça choque. Ça choque parce que dans notre culture politique française, c'est à des années-lumière de la vision qu'on peut avoir de penser et d'imaginer et de mettre en pratique cette idée universelle qu'une problématique, qu'elle soit par exemple raciale ou féministe, doit être pensée par le commun. En gros, on est très différents des Américains là-dessus. Aux États-Unis, depuis très longtemps, les mouvements féministes se réunissent entre femmes. En France, l'idée même, la matrice même de notre pensée politique, c'est penser que tout sujet ne concerne pas que l'individu qui le subit. Par exemple, quelqu'un qui a vécu du racisme ou quelqu'un qui a vécu une violence, quelle qu'elle soit, et par exemple, ça peut être une violence parce qu'elle est femme, la question doit se trouver, la réponse doit se faire dans le commun et non pas
Mais
dans
alors comment vous appelez ça? Est-ce que c'est du racisme? Parce
non,
que tout
c'est...
voir à travers le prisme de la race, comment vous appelez ça quand on ne s'adresse pas à un individu dans
sûr.
Son caractère universel mais à travers sa race, de quoi le nom.
C'est un autre mot que racisme, ça s'appelle le racialisme. C'est-à-dire, c'est tout
mais
résumé à la race.
Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le racialisme?
Non, parce que le racisme, vous avez la notion de hiérarchie. Dans le racialisme, vous ne l'avez pas forcément.
Mais je croyais que les races n'existaient pas.
Mais les races, socialement, n'existent. Elles n'existent pas scientifiquement, mais elles existent dans nos têtes. Vous savez,
dans la tête de qui? Des racisés?
Dans la tête de tout le monde.
Ah
on
bon
a tous un peu d'héritage.
Pour vous, les races existent alors?
Les races existent dans notre inconscient collectif, parce que nous sommes héritiers des générations précédentes où elles ont fonctionné dans la matrice du monde. Et on a démontré qu'elles n'existaient pas scientifiquement, et je vous rappelle qu'il a fallu attendre les années 50-60 pour accepter cette idée, il faut encore la faire partager, mais dans la tête des gens, n'oubliez pas qu'il reste des racistes.
Mais vous sondez les têtes et les cœurs.
C'est un peu le travail, vous savez, des chercheurs, d'arriver à comprendre quand on travaille sur les idéologies, c'est travailler sur ce qu'il y a dans l'esprit des
gens. Mais explique-moi, ça voudrait dire, Pascal Blanchard, que vous, homme blanc, de plus de 50 ans,
je suppose...
Je ne
sais pas si je suis un homme blanc, c'est vous qui me qualifiez d'homme blanc.
Non, je vous ai entendu le dire, je me permets de reprendre une phrase.
Je vous provoque sur cette expression.
Vous voyez, je vous écoute beaucoup. Oui. Vous dites que vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans, ça veut dire que vous devenez quelque part responsable de tout ce que les blancs ont pu faire.
Je pense que je prends un terme que de la manière dont ceux qui vont me regarder vont me qualifier. Je ne prends aucune responsabilité parce que je ne considère pas que nous sommes les héritiers, parce qu'on aura une couleur de peau de ceux qui nous ont précédés. Mais dans l'inconscient collectif, nous sommes les héritiers d'un imaginaire. Vous le savez comme moi.
Oui,
quand
c'est l'histoire, la Révolution française, la Commune, les rois qui ont fait la France,
l'Empire
colonial,
l'histoire de l'esclavage, le Front populaire,
allons plus
tout
loin.
Ça.
Allons plus loin, vous dites c'est dans l'imaginaire collectif. Ouais. Mais ça se traduit par quoi? Parce que selon vous, il y aurait une culture coloniale encore présente en France.
En héritage. Pas encore, en héritage. C'est-à-dire qu'on a hérité, par exemple, on a hérité d'un certain regard qu'on peut avoir sur l'Afrique. On a hérité d'un certain regard qu'on pouvait avoir sur les populations qui venaient de ces continents. On a un certain regard sur la manière... Vous savez, quand vous discutez avec les gens de ce qu'a été le passé colonial, il en reste des choses. Les gens se disent les ponts, les routes, les hôpitaux, la grandeur de la France, les valeurs universelles, et c'est logique. Nous sommes tous les héritiers de ce qui s'est passé avant nous. On peut avoir un point de vue sur cette histoire, mais on en est l'héritier. Mais ça a fabriqué des manières... Vous savez, dans les manuels
scolaires...
Attendez,
c'est des manières de penser, mais ce n'est pas un système. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de mesure.
Ça s'appelle un héritage. Un héritage, on le comprend très bien, il reste les scories de l'histoire. J'avais un professeur qui disait cette phrase très belle, nous vivons encore les éclaboussures impériales. C'est-à-dire que nous ne sommes plus C'est pour ça que je conteste le point de vue des indigènes de la République. Nous ne vivons pas une situation coloniale, mais nous vivons une situation d'héritage.
Vous le contestez, mais eux-mêmes disent qu'il y a une culture coloniale. D'ailleurs, en 2005, dans une tribune dans Le Monde, vous dites la culture coloniale est toujours à l'œuvre en France aujourd'hui, une évidence que beaucoup se refusent à reconnaître. Bien et sûr. En cela, vous soutenez ce que disent les...
Ah non, je dis autre chose. Ah. S'il y a une culture coloniale, c'est pas qu'il y a une pratique coloniale. Une culture, ça veut dire qu'on a un héritage. Ça veut dire qu'il en reste des choses. Comme d'ailleurs, je vous rappelle, on a une culture républicaine, héritier de la Révolution française. Donc, il n'y a pas d'étonnement à savoir que nous sommes les héritiers de ce qui nous a précédé. Et comme on n'a pas décolonisé dans notre pays, vous le savez comment, dans notre pays, il n'y a toujours pas de musée d'histoire coloniale. On n'a pas commencé le travail.
Et on peut le regretter.
Voilà. Et on n'a pas commencé le boulot. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des pays qui l'ont fait. Je vous rappelle qu'il y a des pays comme la Belgique ou l'Angleterre où les gamins vont dans un musée.
Mais est-ce que pour cela, Pascal Blanchard, il faut rééquilibrer l'histoire en rebaptisant des noms de rues et de bâtiments publics? C'est le travail que vous faites et avec un comité, je le précise, de chercheurs, de responsables associatifs, d'intellectuels, de directeurs de musées, pour parvenir à cette liste de 318 noms issus des Outre-mer ou des immigrations. Certains vous disent jusqu'où? Jusqu'où la repentance permanente et perpétuelle?
C'est pas un problème de repentance, faire que dans nos rues, on rend hommage à des héros. C'est exactement le principe. Moi, on m'a élevé en tant que bon petit républicain à faire que dans nos rues, il y a des personnalités qui portent notre histoire.
Mais je suis sûr qu'on vous a élevé en vous parlant d'Aimé Césaire qui a dit « je ne suis pas
non,
tellement
non,
pour
à
la... »
Non, non, on n'en parlait pas. Moi, je suis un vieux.
Mais
Aimé Césaire, on n'en parlait pas dans les années 80.
Enfin, vous connaissez cette situation. Je ne suis pas tellement pour la repentance ou les réparations. Il y a même, à mon avis, un danger à cette idée de réparation.
Mais rendre hommage, ce n'est pas de la repentance. Quand je rends hommage, par exemple, à un médaillé olympique français à Amsterdam, LOFI, champion du marathon, seul médaillé en athlétisme, qu'est-ce que je fais? Je rends hommage à un grand Français.
Mais est-ce que vous n'êtes pas dans une sorte de donnant-donnant? Pour ne pas déboulonner les statues, on rebaptise des rues.
Non, si on avait... peut-être, à l'époque, rendu hommage à des personnalités qui le méritent, aujourd'hui, le débat sur les statues n'existerait peut-être pas. Vous savez, la question, c'est qu'à un moment, c'est le côté répétitif des choses. Ça peut choquer les gens d'avoir une avenue Bugeaud et de ne jamais rendre hommage à Abdelkader. Les deux ont contribué, en bien ou en mal, on peut débattre pendant des heures, l'histoire de France. Quand on me pose la question sur Napoléon, je dis toujours aux gens, mais rendez aussi hommage à Belley, le premier grand député noir qui a voté l'abolition de l'esclavage. Rendez hommage à des grandes personnalités comme Mortenol, qui a défendu Paris en 14-18. Rendez hommage à Raphaël Élysée, maire, élu, Sablé-sur-Sarthe, résistant. Pourquoi? Que certains. Parce qu'à l'époque, dans les années 20, 30, 40, au moment où on a mis par exemple Colbert devant l'Assemblée nationale, à ce moment-là, on a rendu hommage qu'à une partie, notamment des hommes, pas des femmes, et une partie de l'histoire, pas l'autre.
Oui, mais par effet miroir, est-ce que vous n'êtes pas, Pascal Blanchard, en train de nourrir un contre-ethnicisme et vous en donnez presque la preuve?
Je pense pas. Quand je mets Aznavour, quand je dis que Dalida compte dans notre histoire, quand je parle d'El-Wafi ou quand je parle de Toussaint l'Ouverture, au contraire, j'ouvre un spectre qui fait que notre histoire est tellement riche que ça permet à chacun d'arriver à se sentir bien dans ce pays.
Mais vous pensez vraiment que ça va diminuer le ressentiment de certaines générations à l'égard de la France?
Mais ça va contribuer.
C'est le politique
en tout cas
qui vous l'a demandé.
Non, c'est bien sûr le président de la République. Et madame la ministre Nadia Hay, vous savez, c'est les petites choses qui font qu'à un moment, on arrive à construire la République. Alors, moi je crois dans mon métier d'historien. Moi je ne peux pas amener autre chose. Je ne vais pas résoudre le problème des quartiers populaires. Je ne vais pas résoudre le problème de l'intégration. Je ne vais pas résoudre les problèmes économiques. Par contre, je sais une chose. Si un jour un gamin rentre dans une piscine qui s'appelle Nakash et demande à ses parents « Hé, papa, maman, c'est qui Nakash ?» et que d'un seul coup ce gamin se dise que cette histoire dans ce pays elle est merveilleuse, j'aurais gagné un tout petit bout
et
de ces valeurs.
Bien sûr. Et si c'était une gamine, pourquoi si peu de femmes? Vous étiez en panne d'inspiration?
Pas du tout. On a travaillé sur 230 ans et vous savez comme moi qu'il y a eu peu de femmes artistes, peu de femmes militaires. Vous connaissez beaucoup de femmes militaires avant 1945 en France?
Mais pourquoi
vous
pas
connaissez
des
beaucoup
femmes?
De femmes?
Attendez,
c'est-à-dire
pourquoi
hommes
ce
politiques.
Domaine?
Parce que l'objectif
pourquoi
c'était
pas
la
d'avocate?
Diversité.
Pourquoi pas de féministe universaliste?
Parce que je vous rappelle qu'avant, sur 230 ans d'histoire, vous avez cette parité dans la prochaine liste qui sort dans un mois parce que c'est les contemporains. Et là, c'est possible. Parce que ça aurait été trompé au niveau de l'équilibre à trouver sur les 318 premières personnalités. Parce qu'au 1920, 1910, 1880, très peu de noms pour trouver cet équilibre. Puisque les femmes n'avaient, je vous le rappelle, ni le droit à la politique, ni le droit de vote, ni le droit d'être reconnues, ni le droit d'être des grands personnages de l'histoire, ni d'être militaires et encore moins des sportifs.
Puisqu'on parle des grands personnages, et pour conclure, rien de mieux pour réconcilier les Français, Pascal Blanchard, qu'une grande figure, Napoléon. Mais voilà, Napoléon déclenche les passions et les polémiques autour des commémorations du bicentenaire de sa mort. La cancel culture frappe encore?
Non, là, c'est pas la cancel culture.
Ah bon,
c'est d'espérer que cette exposition...
Non,
on n'a pas
Napoléon.
Encore vu l'expo. On ne sait pas ce qu'il y a dedans.
Ah, vous savez.
Non.
Vous avez entendu Thierry Lenz et plein d'autres en parler.
On attend de voir.
Vous ne faites pas confiance à ces spécialistes?
Non, j'attends de voir comment on va traiter d'Haïti, on va traiter de la révolte en Guadeloupe et de la répression, comment on va parler de Napoléon et du rétablissement de l'esclavage. J'ai pas vu l'expo. Donc j'espère qu'il y aura ce juste équilibre.
D'intention, alors.
Ah, il faut toujours voir avant de juger.
Merci Pascal Blanchard d'avoir été notre invité. été ce matin. Bonne journée à vous.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et j'ajoute juste, allez voir cette liste. Je le dis à nos auditeurs, allez voir cette liste parce que je sais pas si ça donnera des noms de rues, d'avenues ou de gymnases, mais au moins ça vous apprendra des choses sur de grands personnages de l'histoire. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28, vous êtes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Pas plus de 6 en extérieur, la dernière consigne du ministère de l'Intérieur, et elle vaut pour tout le territoire avec une application stricte dans les 16 départements partiellement reconfinés la semaine dernière. Des restrictions qui pourraient s'étendre aujourd'hui à 3 nouveaux départements où la situation sanitaire s'est considérablement dégradée ces derniers jours. Il s'agit de l'Aube, du Rhône et de la Nièvre. Précision attendue ce soir en conférence de presse. Il y a eu le Royaume-Uni cette semaine. Il y avait eu l'Italie la semaine dernière. À travers l'Europe, des hommages aux victimes du coronavirus un an après le début de l'épidémie. Rien de tel, si ce n'est des cérémonies ponctuelles pour le moment en France. Et vous avez tenté de comprendre pourquoi, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au sommet de l'État, le sujet embarrasse. Rendre hommage aux morts du Covid alors que le terrible seuil des 100 000 décès se profile, ça n'est pas chose aisée. Les médias ont arrêté d'égrener les morts, mais les chiffres restent affolants. 292 décès au dernier pointage quotidien de Santé publique France. Chaque jour, c'est un avion qui tombe, 2 attentats du 13 novembre. Mais ça fait longtemps que collectivement, on ne fait plus attention, se désole un membre de cabinet. À l'Élysée, on affirme que c'est un sujet de réflexion, mais on explique surtout que le temps des hommages n'est pas encore venu. On n'est même pas encore sorti de la crise, plaide un conseiller. C'est trop tôt, confirme l'entourage d'Olivier Véran. Rien n'est encore prévu, finit par lâcher un important ministre. Parler de la mort est politiquement délicat, le sujet est anxiogène et renvoie aux éventuelles défaillances de l'État. L'exécutif ne veut pas plonger le pays dans des commémorations alors qu'il demande des efforts aux Français. Une chose est sûre, le temps viendra, mais après, un conseiller résume ainsi le débat. Personne n'aurait imaginé rendre hommage aux morts de 1914 dès 1915.
Jean-Rémy Baudeau. Réunion en visioconférence, sommet européen ce jeudi pour évoquer notamment la vaccination, avec également un invité de marque, le président américain Joe Biden, qui s'entretiendra dans la journée avec les représentants des 27. La candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle de 2022, le président de la région Hauts-de-France, dit vouloir restaurer l'autorité de l'État. Il sera l'invité du grand rendez-vous dimanche à 10h sur Europe 1. Le géant des fast-food a-t-il fraudé le fisc français? 3 anciens dirigeants de McDo ont en tout cas été placés en garde à vue, et selon les informations d'Europe 1, un 4e homme toujours en poste aujourd'hui sera entendu à partir de ce jeudi. Les suites de l'affaire Mila, cette jeune fille harcelée sur les réseaux sociaux et qui avait dû quitter son lycée. Elle avait subi un nouveau déchaînement de violence en novembre. 10 personnes au total seront jugées le 3 juin prochain à Paris, et ce selon les cas pour harcèlement moral en ligne, menace de crime ou menace de mort. Enfin, le foot et le match nul. Un partout, hier soir, des Bleus contre l'Ukraine pour entamer la campagne de qualification en vue du Mondial 2022. Les Bleus qui, dimanche, se déplaceront au Kazakhstan.
Merci Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo.
Le temps change, et le temps change pour 2 jours, hein, puisque le beau temps va revenir à partir de samedi et surtout dimanche. Dimanche, lundi, mardi seront des journées vraiment très très agréables. Alors aujourd'hui, la pluie est là sur le Bordelais ce matin, sur la Bordelais, le centre, la région parisienne, la Picardie, le nord, mais elles seront libérées, ces régions, en peu de temps. La pluie quitte même la Normandie, le Poitou-Charentes. Quelques averses encore sur le nord de la Bretagne et le Cotentin dans le courant de la journée. En Champagne, en Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, des ondées dans un ciel qui restera très couvert. Et puis quand même des rayons de soleil sur le massif central, le sud-ouest, la Franche-Comté, du soleil aussi sur le bassin méditerranéen et sur la région Rhône-Alpes. Les températures du jour entre 14 et 21 degrés, ça va rester doux, hein, ça va bien grimper parce que ce matin il ne fait pas chaud. Hein, 9 à Paris, 7 à Lille, 5 à Marseille, 3 à Lyon, 2 à Besançon et 0 degré Aurillac où se trouve Europe 1 aujourd'hui. Hein, Mathieu, la France bouge et Europe 1 aussi bouge. Et avec une émission entre 13 et 14h, une émission que vous devez suivre si vous êtes dans cette région de France, à Aurillac.
Bah, voilà. Vous pouvez la suivre de partout, hein. Ils seront à la Chambre de commerce et d'industrie d'Aurillac. Comment lutter contre l'enclavement des territoires? C'est le thème de La France bouge. Mais comme ça, vous leur dites, hein, ce matin, Emmanuel Duteil, Elisabeth Assayag, qui sont peut-être déjà sur la route, vous leur dites qu'il va faire 0 degré.
Ah, oui, mais c'est à 600 mètres d'altitude, Aurillac, quand même.
Restez à l'intérieur, restez à l'intérieur aujourd'hui. Merci Laurent Cabrol. 8h30, enfin, restez à l'intérieur, je fais attention à ce que je dis, parce que maintenant, il y a des, vous savez, entre les consignes à l'intérieur, mais avec les miens. Voilà, si j'ai bien compris. Dans quelques instants, notre santé, Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, on va parler de ballonnement d'intestin.
J'ai toujours peur, moi, maintenant, vous savez, de donner une mauvaise indication aux Français. Tout va bien, tout est confus. À l'intérieur ou alors dehors en citoyen, voilà.
Exactement. Alors, ballonnement intestin irritable ou colopathie fonctionnelle, vous allez voir que des solutions existent pour améliorer votre confort digestif. Et cela se passe du côté de l'assiette, tout simplement.
Donc là, on est dans l'intérieur. Hein. Mais Jimmy Mohamed, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h37.
Notre santé est présentée par Atoll et l'innovation Lexilens, les premières lunettes qui facilitent la lecture pour les personnes dyslexiques.
Avec le docteur Jimmy Mohamed. Rebonjour Jimmy.
Rebonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1. De nombreux Français souffrent de troubles digestifs comme de ballonnement ou du syndrome de l'intestin irritable. Et vous allez nous proposer ce matin quelques astuces pour les soulager sans médicaments.
Et oui, ceux qui souffrent de ces problèmes ont des troubles de la digestion. Digestion qui commence avec nos dents par la mastication. La nature nous a donné des dents, devant notamment, qui nous servent à croquer. Et puis on a à l'arrière des molaires qui servent à broyer. Alors le premier conseil que je peux vous donner, c'est de bien mastiquer, de prendre le temps de mâcher. D'autant plus que les aliments qu'on mange et qui sont industrialisés sont plutôt mous et ne vont pas nous inciter à bien mâcher. On va avaler tout rond et on donne du travail supplémentaire à notre tube digestif. Et puis la mastication, ce n'est pas qu'un phénomène mécanique, c'est aussi un phénomène chimique. Vous avez dans la salive une enzyme qu'on appelle l'amylase qui sert à dégrader les aliments. Et si par exemple, vous avalez un morceau de pain sans bien le mâcher de façon rapide, eh bien celui-ci va fermenter dans votre tube digestif et donner des gaz. Gaz qui sont composés d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'hydrogène et aussi de méthane, raison pour laquelle je vous déconseille de fumer juste à côté. Et puis vous avez aussi du soufre, le soufre qui va être présent à 1 à 2% dans les gaz, ce qui va être responsable d'une odeur, mais ça provient de l'alimentation. Ce n'est pas un problème de santé, ce n'est pas une maladie d'avoir des gaz.
Et du côté de l'alimentation, est-ce qu'il y a un régime alimentaire particulier à adopter ?
Exactement. Du côté de l'alimentation, il faudrait diminuer la quantité d'aliments qui contiennent ce qu'on appelle des FODMAPs. Alors, pour faire très simple, c'est un nom barbare qui correspond grosso modo à des sucres qu'on va retrouver dans certains aliments light, dans le lait, mais aussi dans les légumes secs et dans les céréales. C'est pour ça que les personnes qui ont des problèmes digestifs, qui vont faire un régime sans gluten, eh bien elles vont mieux. Elles n'ont pas de problème lié au gluten, c'est juste qu'elles vont éviter les céréales qui vont contenir ces FODMAPs, ces sucres un peu rapides. Et donc, elles ne vont plus avoir de troubles digestifs. Et donc pour ça, je vous conseille certaines applications qui sont payantes ou d'aller voir une diététicienne qui pourra justement vous guider au travers de ce petit régime. Et puis n'oubliez pas que les fibres qu'on sollicite souvent et qu'on dit que c'est une bonne chose de les manger, eh bien certaines vont être solubles. On va les trouver dans les légumineuses, dans les agrumes. Elles vont ralentir le transit, garder les gaz et fermenter. Même chose pour les fibres insolubles qu'on va trouver dans les légumes, dans les choux, dans le pain ou le céréale, qui vont augmenter le volume et vous donner des douleurs. Donc doucement sur les fibres, et à l'inverse, ce que je vous recommande, c'est de bouger. L'activité physique permet de mobiliser les gaz et de vous soulager sans médicaments.
Merci beaucoup le docteur Jimmy Mohamed tous les matins sur Europe 1 et à 15h dans son rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 avec Mélanie Gomez. Notre planète, c'est avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Il existe aujourd'hui, Fanny, des coachs pour aider à l'exode urbain.
Oui, c'est ça. Je vais vous parler ce matin d'une start-up qui s'appelle Paris, je te quitte, ça veut tout dire. Elle s'est donnée pour mission d'aider les citadins désireux de changer de vie en les accompagnant dans les différentes étapes pour préparer leur départ. Où aller, comment se loger et comment se reconvertir. Alors concrètement, comment ça marche? Eh bien, vous vous rendez sur le site et d'emblée, vous avez accès à toute une cartographie qui montre les personnes qui sont passées par le site et qui, grâce à cet accompagnement personnalisé, ont franchi le pas. Alors déjà, ça donne envie. Et puis Paris, je te quitte permet de cibler les villes de petite taille qui vous intéressent pour mieux apprendre à les connaître virtuellement si vous n'avez pas le temps ni les finances de vous y rendre dans l'immédiat. Ensuite, ça c'est crucial, on vous aide à trouver un emploi stimulant et on vous aide aussi à rentrer en contact avec les entreprises qui recrutent en province. Et puis, cerise sur le gâteau, on vous donne un coup de main aussi pour trouver la maison de vos rêves.
Et les villes de moins de 20 000 habitants auraient le vent en poupe?
Ah ça, je peux vous dire que oui, dans la catégorie des villes françaises, entre 10 000 et 20 000 habitants, le Puy-en-Velay, en Haute-Loire, c'est à côté de chez moi, se trouve en deuxième position après Lannion, dans les Côtes d'Armor, des villes qui séduisent le plus. Il semblerait que les critères d'attractivité ne soient plus les mêmes qu'auparavant. C'est ce que dit en tout cas l'économiste Florence Janicatrice, qui a mis au point une nouvelle classification des régions qui n'est pas basée sur le simple PIB par habitant, extrêmement réducteur, mais un autre indicateur qui s'appelle l'ISS, l'indice de santé sociale basé sur l'éducation, la santé, le revenu, le logement, l'emploi et surtout surtout l'accès à la nature. Selon cette nouvelle grille de lecture, des régions comme l'Auvergne, la Bretagne et le Limousin retrouvent du galon.
D'ailleurs, on observe un retournement de situation en France.
Ben, complètement. Alors c'est vrai qu'en 50 ans, comme partout en Europe d'ailleurs, les campagnes se sont désertifiées, on le sait. Dans l'Hexagone, c'est 12 millions de personnes tout de même qui ont migré vers la ville en moins de deux siècles. Mais il semblerait qu'une nouvelle tendance se dessine. Et c'est une tendance, je le précise, antérieure à la crise sanitaire. La crise a eu un effet d'amplifier un peu tout ça, d'amplifier le phénomène. Une réalité qui pourrait faire mentir les démographes qui extrapolent sur un renforcement de la concentration de la population dans les grandes métropoles ces prochaines décennies.
Merci beaucoup Fanny Agostini. Notre planète, c'est tous les matins et c'est sur Europe 1, 8h42.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la rue presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve tout de suite Mathieu pour les infos du jour.
Eh oui, vous êtes là ma chère Julie, et c'est tant mieux. Bonjour à tous, l'actualité c'est l'équipe de France qui a fait match nul, vous l'avez peut-être hier vu, face à l'Ukraine. Antoine Griezmann, qui a été l'auteur en particulier du but, pas victorieux puisqu'il y a eu égalité, vous le savez. Alors que... Qu'est-ce qui se passe? Oh oui, Madame Julie, pardonnez-moi, mais ce matin, il y a une nouvelle d'une importance capitale à annoncer.
Xavier Bertrand.
En effet, moi, Xavier Bertrand, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle de 2022. Pas enfin, d'être passé, Xavier Bertrand, surtout qu'on croyait que vous n'arriviez plus, il y avait un gros blanc. Donc je disais, Antoine Griezmann, qui a été l'auteur du but hier, et nous avons... oui, Monsieur Béliard, oui. Je viens de faire, je le rappelle, une annonce importante pour la France. Et vous avez l'air, vous, de vous en tamponner le coquillard avec une patte d'alligator femelle.
Oui, alors c'est vrai, c'est fantastique cette info, cette annonce. Xavier Bertrand est candidat. C'est vrai qu'on est tous autour du studio, hein, on soupçonne, vous également, auditeurs, tous bouleversés. S'il y a bien un truc qu'on se dit depuis le début de l'épidémie, c'est « Ah, si seulement on avait eu Xavier Bertrand pour nous sauver ». À la limite, on s'est plus dit ça d'Antoine Griezmann, mais bon, bref. Et puis, l'autre info, allez, c'est l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes à l'extérieur. Ouf, Xavier Bertrand, on pourra quand même organiser des meetings avec tous ses soutiens. Oh. Allez, à vous Julie.
Merci Mathieu. Le gouvernement tout entier mobilisé pour la vaccination. L'objectif est de 30 millions de vaccins d'ici juin. Bonjour Jean Castex.
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur Pellia, bonjour à papy et mamie qui vont bientôt rejoindre le casting de notre grand programme, oui.
Oui.
30 millions de vaccinés.
Ah, 30 millions, oui.
Bonjour à tous et bienvenue dans 30 millions de vaccinés. Votre papy est plein d'énergie, il demande à ressortir, il veut à nouveau gambader dans la forêt, mais il faut le vacciner. S'il va jouer avec d'autres mamies ou avec d'autres papys, il peut avoir la truffe humide, on ne sait jamais. La truffe humide qui coule, le Covid, eh oui, le Covid, alors vite. Faites vacciner papy pour qu'il fasse partie de nos 30 millions de vaccinés. Et bientôt, il pourra à nouveau jouer à la baballe où vous bavez dessus comme l'adorable papy qu'il est.
Non, qu'il restera. Mais c'est quoi ça, Jean Castex? Allons.
Eh bien, écoutez, on essaye de faire de la communication claire et compréhensible. Après, dedans avec le mien, dehors en citoyen, on tente... de nouvelles choses. On tente des trucs, comme disent les jeunes.
Et ça fonctionne. Les gens sont réceptifs. Ils viennent se faire vacciner.
Mais bien sûr, ah bien bon. Sûr. Même les plus farouches, Mme Julie, des anti-vaccins, sont convaincus par notre stratégie. Et ils viennent, ils voient qu'on n'a pas de dose. Alors, du coup, ils sont contents. Ils rentrent chez eux rassurés par notre politique. Du coup, ils ne sont pas vaccinés, tout va bien.
Ah ben, si vous le dites. Allez, bonne voilà. journée, Jean Castex. À bientôt. Voilà.
Je
ne
sais pas si vos auditeurs ont compris.
Non, pas bon. Tout, mais bon.
Comme d'habitude, quoi.
Ils réécoutent, hein, en replay, de
toute façon. Très bien. Oh, je fais de la promo. Elle est maligne, cette Julie Leclerc.
Le gouvernement a été très clair. Aucune dérogation aux restrictions pour les fêtes de Pâques.
Des rétros, sana, alléluia. Ce gouvernement veut empêcher les catholiques de célébrer la résurrection de Jésus.
tout le monde crève et on ne peut même pas ressusciter tranquille.
Mais attendez, non, vous ne m'avez pas laissé finir, Philippe de Villiers. Les messes sont quand même autorisées. Ce sont les repas familiaux à la suite de la messe sur lesquels il n'y a aucune dérogation. Voilà.
Ah, ok, d'accord. Il faut que tu sois précise, femelle.
Ah, j'essaye, oui.
Oui. N'induis pas les auditeurs en erreur. Hein. Bon, alors du coup, ok, ça va. Nous n'avons pas besoin de gigots du dimanche ou de chasse aux œufs. Pardon. Bonjour, je me présente Axel Kahn. Je suis généticien.
Manquez plus que lui, là.
Vous voyez, j'avais tout prévu. Ce gouvernement nous a flingué la chasse aux œufs. Alors que j'adore la chasse aux œufs. Silence, vieillard. Tu seras un vrai catholique et non un glouton sénile, tu serais ainsi, tu saurais que le plaisir d'aller nous agenouiller sur la pierre froide d'une chapelle nous suffit. Qu'est-ce oui, c'est comme ça, moi, que je prends mon pied. Oui, j'ai plaisir à expier mes péchés sur un prie-dieu en bois vermoulu. Oh, hein. Pas besoin de s'empiffrer de Kinder Chocobon comme une adolescente qui s'est fait larguer. Embrasse un crucifix et là, tu vas kiffer. Alléluia.
Oh, là, Pâques avec Philippe de Villiers, c'est quelque chose. Bon, la situation devient préoccupante dans les écoles. Le nombre de cas augmente. On est avec le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Bonjour.
Oui, bonjour Mme Julie. Effectivement, il y a de plus en plus d'enfants contaminés, vous le savez. On a fait effectivement une erreur, autant l'avouer, on leur a fait confiance. Voilà. On a voulu les responsabiliser, mais bon, voilà, ce sont des enfants, je le rappelle, qui sont de nationalité française, des enfants français, donc par nature indisciplinés, incapables de suivre une consigne, et qui pleurent tout le temps. Vous savez, les chiens ne font pas des chats.
Alors, vous avez dit que la France évitait la catastrophe éducative mondiale en ne fermant pas ses écoles, contrairement aux autres pays.
Oui, oui, contrairement à d'autres pays. Mmh. Vous avez dû le remarquer, les autres pays sont en train de se préparer des générations de jeunes cons.
Ah, parce qu'ils ferment
les Italiens vont être cons, les Allemands vont être cons, les Américains vont être bon, comme d'habitude. Mais les Français, eux, seront intelligents parce que nous ne fermons pas les écoles. Dans 3 ans, on est, j'en suis certain, la première puissance mondiale. Et ce sera grâce au gouvernement français. Il faudra, je pense, j'espère, à ce moment-là, nous remercier, n'oubliez pas.
Merci.
Interrogé sur les risques pour les parents d'élèves d'être contaminés par leurs enfants, vous avez dit que c'était peu de choses par rapport au risque de décrochage scolaire.
Mais oui, c'est peu de choses. Honnêtement, vous préférez quoi ? Un gamin nul en maths ou un séjour en réanimation ? Moi, je choisis le séjour en réanimation direct. Plutôt crever que de voir mon gamin devenir un chômeur.
Et vous avez dit aussi que le protocole sanitaire dans les écoles françaises était un des plus respectés d'Europe. Vous avez même dit que d'autres pays nous admiraient.
Effectivement, absolument. Nous sommes des leaders en matière de...
Ah bon ?
Bon.
Écoutez, si vous le
dites. Eh mon Dieu ! Oh, c'est Jean-Michel Blanquer !
Oui, bonjour, Mme Merkel.
Oh mon Dieu, il m'a parlé ! Oh, c'est le génie qui dirige votre éducation nationale.
Oui.
C'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir les fenêtres pendant les heures de classe. Oh là, c'est lui ! Je peux avoir un autographe ? Oh, Monsieur Blanquer, comment c'est venu cette idée incroyable de demander aux enfants de se laver les mains ? Oh, en Allemagne, on n'avait pas pensé une seule minute à ça, mais oh, c'est tellement malin ! C'est Einstein, cet homme-là !
Vous voyez, Mme Julie, pas besoin de forcer les choses, l'admiration de toute l'Europe est là. Moi, J'ai quand même fait du bon boulot.
Bon, c'est vous qui le dites.
Oh, en plus d'être intelligent, il est modeste. Oh, vous devez être content de l'avoir, vous les fans aussi, votre Jean-Michel Blanquer. Ah, oh, on vous le laisse celui-là, on ne voudrait pas vous priver de quelqu'un comme ça. Comme ça, ça nous permet de bien ricoler. Ah, je m'en tape la peau d'orage.
Oh.
Ah, c'est de la grosse marade bavaroise.
Oui, ben on se calme, Angela. Allez, à bientôt.
On se calme, Angela.
C'est ajouté, ça. Hein, c'était pas... En vue de 2022, Emmanuel Macron prépare un plan de relance de 100 milliards d'euros quand la crise du Covid sera terminée. C'est pour qui, ça ?
Française, français. Vous avez vu que cette Marseillaise est très utile ce matin. Mes chers compatriotes, bonjour.
Jean Lassalle. Mais pourquoi cette Marseillaise, Jean Lassalle?
Mais pourquoi une Marseillaise? Parce que c'est une déclaration quasi officielle du quasi futur président de la République, cher Julie. Oula. Je vous rappelle que pour l'instant, je suis le seul candidat officiellement déclaré. Donc à ce jour, je suis le prochain président de la France.
Ouais. Bon. Et vous voulez nous dire quoi ce matin?
Eh bien, je viens vous présenter officiellement et solennellement mon plan de relance de l'économie.
Ah.
Et avec moi, ça ne va pas coûter 100 milliards. Mais exactement, je l'ai chiffré. J'ai fait le budget prévisionnel. 11,50 €.
11,50 € pour relancer l'économie?
Oui, c'est le prix de l'email, le courriel exactement, que je vais envoyer aux Français car je n'ai pas Internet. Et si je veux envoyer un courriel, je dois, tenez-vous bien, aller dans un cybercafé de Pau, qui est la ville la plus proche de mon village de Lourdes si cher, et ça me coûte un billet de car, d'autobus, si vous préférez, parce que je pense que tout le monde dit le car,
mais écoute,
vous dites
c'est
votre autobus, je ne sais pas comment vous dites, vous, chez vous.
Ouais, non, mais ça coûte combien?
Nous, ça coûte 4,50 €, l'aller-retour.
Aller-retour, quand même.
Plus un café à 2 € dans le cybercafé, et une heure d'Internet illimitée à 5 €, je fais les totos. 5 et je retiens 1, je retiens 4, le journal va passer à 9h10. 11,50 €.
Bon. Et donc, dites-nous, il y aura quoi dans cet email, à part les bruitages là, il y aura quoi dans cet email que vous allez envoyer aux Français?
Eh bien, mon plan de relance de l'économie. Et voilà, tout simplement. Dès 2022, tout Français devra faire l'acquisition. Et c'est mon plan de relance. L'acquisition, tout Français, d'une poule, d'une vache et d'un mouton. Et bien sûr, parce que dans le cochon, tout est bon, et d'un cochon. La poule produira des œufs pour se nourrir. La vache produira du lait. Le mouton, la laine pour se vêtir. Et ils pourront tuer le cochon pour les jours de fête. Voilà.
Et c'est ça votre plan de relance de l'économie française?
Mais votre question... Mais Poustoufle, il n'y a pas besoin de plus pour être heureux, madame Julie. Alors, les Parisiens se plaignent de s'ennuyer pendant le confinement. Mais vous allez voir, une fois qu'ils auront à la maison... Dans l'appartement, leurs poules, leurs vaches, leurs cochons, leurs moutons, je peux vous dire, ils ont une journée bien remplie. Pour une France, Agostini, votez Lassalle.
C'est le slogan avec notre amie Fanny Agostini.
Pour une France, Agostini. Bravo Nicolas Canteloup et ses auteurs, évidemment Nicolas Canteloup et Julie, c'est la revue de presse à retrouver sur Europe1.fr. Et puis tiens, puisqu'on parlait des différents candidats à l'élection présidentielle, Xavier Bertrand a choisi Europe 1 et Le Point pour annoncer sa candidature à l'élection de 2022. Notez bien... Il sera dans le grand rendez-vous dimanche matin, Xavier Bertrand, au micro de Mickaël Darmon. J'allais dire au micro de Xavier Bertrand. Non, il y aura quand même Mickaël Darmon en face pour lui poser quelques questions, évidemment. 8h57 sur Europe 1, très bon réveil. Bon, il serait temps de vous réveiller, remarque. C'est un peu une phrase. Ah non, il est presque 9h.
Oh, il y a des
presque,
gens qui dorment. Hein,
presque Philippe Vandel pour Culture Média.
Il y a des gens qui se réveillent pour Culture Média. Bonjour Mathieu. L'info média du jour, c'est une initiative du magazine Elle pendant tout ce mois de mars. Ça s'appelle Elle Campus. C'est pour aider les lycéennes et les étudiantes à préparer leur avenir, une sorte de coaching personnalisé. On en parle avec celle qui est à l'initiative de ce projet, Florence Besson. Au sommaire également, les 15 ans du mensuel Philosophie Magazine. 600 000 lecteurs, vous vous rendez compte, quand on dit que c'est le magazine des profs de philo. Non, il n'y a pas 600 000 profs de philo. C'est qu'il y a quelque chose de plus dans ce magazine, et on va vous le raconter. Et puis, on serait avec le rédac chef Michel Elchaninov. Et puis, vous connaissez Agnès Martin-Lugan?
Non, je vais être honnête,
Eh bien, c'est une romancière, et elle a vendu 3,5 millions de livres. 3,5 millions en 8 livres et en 8 ans, c'est un phénomène d'édition. Son 9e roman sort aujourd'hui, il s'appelle La Dacha. Elle sera dans ce studio pour en parler.
C'est votre invité, Philippe Vandel, c'est Culture Média de 9h à 11h. Philippe et toute son équipe, bien sûr, je vous souhaite une très belle journée. À l'écoute d'Europe 1, évidemment, moi je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé, on va vous le raconter.